VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 19h30 en temps universel. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au micro, Jacques Aristide et Raël Saint-Girondin à la une de l'actualité ce soir.
Au Burkina Faso, une première attaque contre une église protestante fait 5 morts dans le nord du pays.
Le décompte des bulletins toujours en cours au Bénin au lendemain des législatives.
Nous reviendrons sur l'attaque contre une synagogue californienne qui ravive les craintes d'une montée de l'antisémitisme aux États-Unis.
Dans la tranche magazine, gros plan sur les Africaines de la diaspora et les nouvelles technologies, la ville de Washington veut leur apporter son aide.
La technologie fait tourner le monde. Nos courriels, nos médias sociaux, même les vêtements que nous portons sont fabriqués à partir de certaines données recueillies.
Et vous retrouverez votre rubrique économique et sportive, mais non, tout de suite, d'abord le journal.
Cap sur le Burkina Faso pour démarrer. Une première attaque contre une église a fait 5 morts hier. Elle a été perpétrée à Silgadji, à 60 km de Djibo. C'est le chef-lieu de la province du Soum, dans le nord du pays. Région en proie à des attaques djihadistes récurrentes. Davantage avec Bagassi Koura.
C'est vrai que des catholiques et musulmans ont déjà été visés par des attaques djihadistes, mais là, il s'agit de la première attaque d'une église. Ce dimanche donc, des individus armés non identifiés ont attaqué l'église protestante de Silgadji, tuant 4 fidèles et le pasteur. Au moins 2 autres personnes sont portées disparues, a indiqué lundi une source sécuritaire. L'attaque a eu lieu vers 13h au moment où les fidèles quittaient l'église à la fin de l'office religieux, a précisé un membre de l'église. Les assaillants étaient à moto, ils ont tiré des coups de feu en l'air avant de viser les fidèles, a précisé le même témoin. Vendredi, 6 personnes, dont 5 enseignants, ont été tuées à Maïtaougou, dans la province du Koulpé-Logo, dans la région de l'Est.
Le Nigeria est également le théâtre de nouvelles attaques menées par Boko Haram. 5 soldats ont été tués et on est sans nouvelles d'une trentaine d'autres, 3 jours après l'attentat contre une base militaire dans le nord-est du pays. Compte rendu, Morgane Guerriec.
Des sources militaires rapportent que des membres du groupe État islamique dans la province ouest africaine ont pris vendredi la base de Mararabar Kimba dans l'état de Borno. Les insurgés se sont emparés des armes avant de se retirer, avait déclaré samedi un officier. 3 jours plus tard, un premier bilan fait état d'au moins 5 soldats tués. Les assaillants sont arrivés à bord d'une douzaine de pick-up équipés de mitrailleuses lourdes. Ils disposaient aussi de 3 véhicules blindés de transport de troupes volés aux forces de sécurité. Ils étaient accompagnés de combattants en moto. Plus de 27 000 personnes sont mortes depuis le début du soulèvement de Boko Haram en 2009 et 1,8 million de Nigérians ne peuvent toujours pas regagner leur foyer.
Les législatives au Bénin, le décompte des bulletins s'est poursuivi ce lundi au lendemain du scrutin où l'opposition n'a présenté aucun candidat. La connexion Internet a été rétablie après une coupure de près de 24 heures, mais aucune tendance officielle n'a été donnée pour l'heure. Seuls 2 partis proches du pouvoir, le Bloc républicain et l'Union des progressistes, ont préparé ces élections, mais tout le pays attend de connaître les chiffres de la participation après l'appel au boycott de l'opposition. Nous y reviendrons dans la partie magazine.
Nouveau bilan du passage du cyclone Kenneth sur l'extrême nord du Mozambique la semaine dernière. Il s'est alourdi à 38 morts ce lundi. On dénombre également 39 blessés alors que près de 35 000 habitations ont été détruites ou endommagées. La forte montée des eaux complique les efforts des secours pour venir en aide aux milliers de sinistrés. Des détails avec John Linden.
Ce nouveau bilan a été annoncé ce lundi par les autorités mozambicaines. Le précédent faisait état des 5 morts dans la province du Capo Delgado, à la frontière avec la Tanzanie. Le cyclone Kenneth a touché jeudi la côte de la province avec des vents approchant les 300 km/h et des pluies diluviennes. Après le passage de Kenneth, la ville de Bemba, capitale de la province, et ses alentours ont subi d'importantes inondations. Plusieurs quartiers de la ville, qui comptent quelques 400 000 habitants, étaient sous les eaux et de nombreuses routes coupées. Ces inondations compliquent la distribution de l'aide d'urgence, selon le Programme alimentaire mondial, alors que quelques 30 000 hectares de cultures ont été détruites par la montée des eaux. C'est la deuxième fois en moins de 6 semaines que le pays est frappé par une catastrophe naturelle après le passage dévastateur du cyclone Idai dans le sud. Ce cyclone a provoqué la mort 1 000 000 de personnes et fait des centaines de milliers de sans-abri.
Au Soudan, divergence sur la composition du futur conseil conjoint civil-militaire. Les leaders de la contestation et les militaires au pouvoir ont tenu une nouvelle réunion ce lundi à ce propos. Ce conseil conjoint inclurait des représentants de l'armée et des civils et prendrait la tête du pays. Les deux camps ont toutefois proposé chacun des compositions différentes d'après un porte-parole militaire qui a tout de même exprimé l'espoir qu'un accord sera prochainement trouvé sur la forme définitive de cet organe qui doit remplacer le Conseil militaire.
En Algérie, le ministre des Finances, Mohamed Louka, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, est ressorti libre d'un tribunal d'Alger ce lundi, où il était entendu par le parquet sur des soupçons de dilapidation de fonds publics. C'est la première fois qu'un membre du gouvernement comparaît devant le procureur de la République depuis le début, en février dernier, de la contestation populaire qui ébranle le pays.
De nombreux Tunisiens ont manifesté ce lundi à Sidi Bouzid, dans le centre-ouest du pays, contre le gouvernement et la précarité après la mort de 7 ouvrières agricoles dans la camionnette qui les emmenait au travail. L'accident a déclenché de vives critiques sur les réseaux sociaux contre le gouvernement, accusé de délaisser ces femmes qui acceptent de travailler de longues heures dans les champs pour 10 dinars par jour, moins de 4 dollars environ. Les protestataires ont défilé sans incident sous haute surveillance policière.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un homme présenté comme le chef du groupe État islamique Abu Bakr al-Baghdadi est apparu pour la première fois en 5 ans dans une vidéo de propagande diffusée ce lundi par les djihadistes, un peu plus d'un mois après la chute de son califat autoproclamé. La date à laquelle cette vidéo a été filmée n'est pas connue, ni le lieu de tournage, mais celui qui est présenté comme étant Abu Bakr al-Baghdadi y évoque les attentats pour la Pâque catholique contre des églises et des hôtels au Sri Lanka le 21 avril.
Ici aux États-Unis, la ville de Poway en Californie est toujours sous le choc, 2 jours après une fusillade dans une synagogue ayant fait 1 mort et 3 blessés. La victime, une femme de 60 ans, sera inhumée ce lundi. Abdourahman Dia.
Laurie Gilbert Kay est considérée comme un héros. Le rabbin Israel Goldstein, qui est blessé à la main et a perdu un doigt dans la fusillade, était juste à côté d'elle avant qu'un jeune de 19 ans ne commence à tirer. « Elle a pris une balle pour nous tous. Elle est morte en nous protégeant », a-t-il dit aux journalistes. Les fidèles étaient en pleine prière à l'occasion du dernier jour de la Pâque juive. Le rabbin, qui a remercié le président Donald Trump qui lui a parlé au téléphone, a appelé à dépasser la haine. « Nous devons combattre l'obscurité par la lumière. » Aussi sombre que soit le monde, il faut penser à la lumière, a dit Israel Goldstein. Le président américain, lui, a déclaré que l'attaque était un acte de haine. L'auteur présumé est un étudiant de 19 ans. Il est en détention et attend d'être présenté à un juge mercredi. Les enquêteurs cherchent aussi à savoir si John Ernest est impliqué dans l'incendie d'une mosquée à quelques kilomètres de la synagogue il y a quelques jours.
Les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis sont dans la phase décisive qui déterminera si un accord final est possible. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, lundi. Steven Mnuchin et le représentant américain au commerce, Robert Lighthizer, se rendent à Beijing cette semaine pour une nouvelle série de négociations avec les représentants chinois qui commenceront mardi. Ils se réuniront ensuite à Washington la semaine prochaine pour tenter de finaliser un accord.
Ailleurs dans le monde, en Afghanistan, des milliers de délégués venus de tout le pays ont entamé aujourd'hui à Kaboul une grande assemblée sous très haute sécurité afin de discuter des efforts des États-Unis pour parvenir à un accord de paix avec les talibans. Plus de 3 000 politiciens, responsables religieux, dirigeants communautaires et autres membres de la société civile sont conviés à cet événement prévu sur 4 jours.
Et en Turquie, un homme écroué pour des soupçons d'espionnage au profit des Émirats Arabes Unis s'est suicidé en prison. C'est ce qu'ont annoncé les autorités turques ce lundi. Ces dernières le soupçonnaient notamment d'être lié à l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. D'après le parquet d'Istanbul, l'homme s'est pendu dans la salle de bain de sa cellule où il était détenu à l'isolement.
Et puis en Turquie, un homme écroué pour... Alors, on va passer à l'Espagne. L'ex-président catalan Carles Puigdemont, qui a fui en Belgique pour échapper aux poursuites de la justice, a été interdit de se présenter aux européennes par les autorités électorales espagnoles. C'est ce qu'a indiqué ce lundi son parti indépendantiste. D'après cette formation appelée Ensemble pour la Catalogne, les autorités électorales veulent ainsi le réduire au silence. L'autorité électorale s'est refusée à tout commentaire.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Namit Talani.
Les revenus du pétrole en Libye ont augmenté au mois de mars, dépassant 1,5 milliard de dollars. Il représente une hausse de 20% par rapport au mois de février et marque le retour au niveau habituel de revenus mensuels. Cette amélioration s'explique surtout par la récente réouverture du champ pétrolier d'Al-Sharara, un des plus importants après 3 mois de blocage par un groupe armé. Toutefois, le président de la Compagnie nationale du pétrole, Mustafa Sanalla, s'inquiète de la menace sérieuse du conflit en cours sur les opérations, la production et sur l'économie nationale. Le Kenya a obtenu 666 millions de dollars de la Chine sous forme des prêts à des taux bas en contrepartie de partenariats avec des entreprises privées chinoises, révèle l'agence Ecofin. Ces fonds serviront à construire une autoroute reliant l'aéroport de Jomo Kenyatta au banlieue de Nairobi et qui sera réalisée par China Road and Bridge Corporation. Le Kenya a obtenu 666 millions de dollars de la Chine sous forme des prêts à des taux bas en contrepartie de partenariats avec des entreprises privées chinoises, révèle l'agence Ecofin. Ces fonds serviront à construire une autoroute reliant l'aéroport de Jomo Kenyatta au banlieue de Nairobi et qui sera réalisée par China Road and Bridge Corporation.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Eric Manirakiza.
Bonsoir Raïssa.
Nous revenons sur la Coupe CAF, la demi-finale entre le club sportif sfaxien et la RS de Berkane.
Les Marocains auront la tâche difficile dimanche prochain pour le match retour. Ils devront remonter d'abord 2 buts encaissés à Tunis pour remettre les compteurs à zéro. Espérer voir le chemin vers la finale. De son côté, la formation tunisienne de Sfax reste prudente. Son entraîneur Ruud Krol veut préserver le résultat de 2-0 à l'aller.
C'est pas fini, le match aller est toujours dur. C'est une bonne équipe, bonne expérience. C'est tous de jouer. Mais bien sûr, nous sommes contents de nous gagner le match. Je dis avant, hier, nous n'encaissons pas un but contre eux. C'est toujours important.
En Ligue des Champions, le Wydad Casablanca a fait l'affaire contre Mamelodi Sundowns.
Tout à fait, victoire marocaine de 2-1 au complexe Moulay Abdellah de Rabat. Le match retour prévu le 4 mai à Pretoria décidera qui du Wydad Casablanca, champion de cette compétition en 2017, Sundowns, son prédécesseur, validera son billet pour la finale. Suivez la réaction de Fawzi Benzarti, le manager du Wydad.
Pour moi, Sundowns, c'est une très très belle équipe, très très grande équipe avec ma staff extraordinaire. On s'attendait à une résistance farouche. Mais notre plan, plus ou moins, il a marché, mais le but qu'on a encaissé, c'est trop bête. Dommage, parce qu'on a eu l'occasion de marquer le deuxième but après le premier but. On l'a pas eu, on n'a pas attendu, mais il a raté. Sinon, le match, c'est le déclic du match. On aurait pu marquer au-delà si on a marqué le deuxième but. On a cadré le séjour d'Astelle.
Eric Bailly ne pourra pas participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Eric.
Tout à fait, Raïssa, le défenseur international ivoirien de Manchester United s'est blessé au genou droit lors du match de Premier League de dimanche contre Chelsea à Old Trafford. Il ne rejouera plus pour les Red Devils cette saison et manquera donc la CAN 2019 cet été entre le 20 juin et le 19 juillet.
L'UEFA Tottenham affronte l'Ajax Amsterdam mardi en demi-finale aller de Ligue des Champions.
Ce n'est pas pour gagner une Coupe d'Angleterre ou une Coupe de la Ligue, c'est pour être un vrai prétendant à la victoire en Premier League. En Ligue des Champions, a dit Mauricio Pochettino, l'entraîneur des Spurs. Il s'est dit optimiste malgré les blessures qui touchent Tottenham. croyant son équipe capable de s'imposer face à l'Ajax Amsterdam. Peu importe avec qui sur le terrain, on doit être prêt, a-t-il dit.
Et enfin, Neymar risque plusieurs matchs de suspension.
Son geste d'humeur risque de lui coûter cher. Neymar a frappé au visage un spectateur qui l'a provoqué alors qu'il allait récupérer en tribune sa médaille. C'était samedi, après la défaite contre Rennes en finale de la Coupe de France.
Merci Eric Maniarakiza.
Il est l'heure maintenant de passer à notre segment magazine dans le monde aujourd'hui. Raïssa Girondin et Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique.
Élections législatives d'hier, dimanche, au Bénin. Le scrutin s'est déroulé avec quelques incidents enregistrés dans le nord du pays où des bureaux de vote ont été fermés précipitamment. Le taux de participation est très faible, selon les observateurs. Le point avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Le fait le plus notable pour ces élections boycottées par l'opposition dont les candidats n'ont pas été retenus est le faible taux de participation. Près de 24 heures après ces élections, aucune tendance n'était encore disponible selon le président de la commission électorale, Emmanuel Tiando.
À l'heure actuelle, il est difficile à la Sénat de faire le point dans la mesure où vous savez que le code électoral nous oblige à recevoir les résultats physiques des coordonnateurs d'arrondissement. Donc, nous ne pouvons pas donner une quelconque tendance.
Pour certains électeurs, la peur de violence est l'une des raisons qui les ont poussés à rester chez eux dimanche.
Tout le monde a peur de sortir de chez lui pour aller voter. Ils ont peur de tout ce qui peut se passer. Parce que là, maintenant, tout peut se passer.
Cette élection-là, c'est une élection particulière. Ça a dénaturé complètement notre démocratie.
Des actes de violence ont été signalés dans plusieurs endroits du nord du pays. Des électeurs chassés à coups de bâton, des portes donnant accès à des bureaux de vote mystiquement barricadés. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique rassure que des sanctions seront prises contre les auteurs d'actes de violence ou de vandalisme.
Des individus incontrôlés s'en sont pris au matériel de vote, aux équipements de la police républicaine et à ses hommes, à des biens privés ou à des journalistes. D'autres encore ont entrepris de barrer la route pour perturber, voire bloquer la circulation. Néanmoins, il est à signaler qu'aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Les auteurs et commanditaires des actes de vandalisme, de violence seront poursuivis et sanctionnés avec la dernière rigueur conformément aux lois de la République.
La plateforme des organisations de la société civile dans un point de presse a relevé les incidents, mais elle a surtout plaidé pour que l'accès à l'Internet soit total. Fatoumata Zosubatoko est la présidente de la plateforme électorale.
Occupée par la restriction de l'accès à l'Internet, la plateforme réitère sa recommandation relative à la fourniture permanente sur l'Internet sur toute l'étendue du territoire national.
Sur la toile, la guerre des chiffres fait rage. L'opposition appelle à la réorganisation du scrutin pendant qu'une bonne partie de l'opinion invite les acteurs politiques à ne pas céder à la violence pour le maintien du processus démocratique au Bénin. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Au Mali, le gouvernement du nouveau Premier ministre, Boubou Cissé, n'est pas encore formé ce week-end. L'opposition a proposé un accord et posé les conditions pour son entrée au gouvernement. Pendant ce temps, la classe politique se prépare pour un dialogue national. Le point avec Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
Bientôt deux semaines sans gouvernement au Mali. Tous les regards sont donc tournés vers le Premier ministre, chargé de mettre en place un gouvernement de large ouverture. L'opposition ne rejette pas sa participation à un tel gouvernement, mais elle pose de nouvelles conditions. Alexis Calambri est analyste et journaliste.
Effectivement, depuis la semaine dernière, le Premier ministre a commencé à consulter tout le monde. Dans ces consultations, certains ont souhaité qu'il y ait un accord politique écrit, une sorte de feuille de route. Et je pense que c'est cette feuille de route qui bloque parce que depuis un certain temps, il y a un va-et-vient entre les partis politiques, la primature et Koulouba, où on est en train de s'entendre sur le minimum qu'il faut. Je pense que c'est une bonne chose jusque-là.
La contre-proposition du Premier ministre ne semble pas être du goût de l'opposition. Maître Demba Traoré de l'URD.
Nous gardons cette position parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire que nous fassions une ruée vers un attelage gouvernemental pour régler quoi. Nous avons accepté, nous avons fait violence sur d'accepter la main tendue d'aller vers le président de la République. Nous avons compris que le président a atteint ses limites, ça il faut le reconnaître. Le seul problème que nous avons aujourd'hui, c'est la gouvernance. Pour régler ces problèmes-là, il faut une gouvernance vertueuse.
De son côté, l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé a réuni la classe politique et la société civile pour parler du dialogue réformateur national.
Il est pour le départ, c'est le président de la République. Il annonce à la nation malienne, dans un message solennel, son intention d'initier un dialogue national réformateur. Second lieu, il missionne le gouvernement au fait d'organiser une conférence des forces politiques et sociales maliennes, dont l'objectif est de négocier un accord politique qui permettra de convenir d'un processus véritable de sortie de la crise. Les recommandations issues du dialogue national réformateur, consignées dans un rapport adressé au président de la République, auront force contraignante pour tous les gouvernements qui auront la charge de conduire les affaires publiques du Mali.
L'ancien ministre de l'administration territoriale, Ousmane Sy, trouve que le vrai dialogue national doit partir de la base au sommet.
Après avoir discuté, analysé la situation à l'échelle de chaque commune, les gens sortiront un cahier de propositions sur les problèmes qui vont être soumis. L'étape 2, ces cahiers de propositions vont au niveau cercle pour là ajouter les points de vue d'autres types de groupements. Après, on arrive au niveau régional en ajoutant les logiques administratives, les logiques partisanes, disons, pour enrichir et terminer par une synthèse nationale.
Aujourd'hui, la classe politique malienne est divisée entre ceux qui veulent un gouvernement d'union nationale et ceux qui posent comme préalable un dialogue national. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
L'Afrique du Sud s'apprête à tenir des élections générales le 8 mai. En dépit des problèmes économiques et les accusations de corruption, l'ANC, le parti historique de la lutte contre l'apartheid, est donné favori. Quels sont les grands enjeux de ce scrutin? Morgane Guerriec a joint Lise Lovaudran, chercheuse à l'ISS, l'Institute for Security Studies, à Johannesburg.
L'enjeu principal, c'est le score du président Cyril Ramaphosa et l'ANC. Nous n'avons pas d'élection présidentielle. Ramaphosa est populaire à travers le pays, mais l'enjeu principal, c'est de savoir si Cyril Ramaphosa va sortir avec une forte majorité. Sinon, si l'ANC va être affaibli, sa présidence sera affaiblie quelque part. Il n'y a pour l'instant... il n'y a pas vraiment une doute si l'ANC va gagner des élections.
25 ans après, l'ANC, parti historique de la lutte contre l'apartheid, est donc donné favori. Comment l'expliquer?
Le parti de Nelson Mandela, des grandes figures historiques de la lutte contre l'apartheid, mais ces dernières années, avec l'économie sud-africaine qui a beaucoup souffert, manque de croissance, beaucoup d'accusations de corruption, l'ancien président Jacob Zuma, il n'a pas réussi à faire avancer le pays. Aussi, l'ANC a perdu son élan, mais ça reste toujours le parti de Nelson Mandela, en fait.
Mais les jeunes qui n'ont pas connu l'apartheid, est-ce qu'ils voient les choses différemment?
Les jeunes voient des choses différemment. Il y en a qui accusent Nelson Mandela d'avoir vendu le pays en quelque sorte parce qu'on a négocié une transition après la fin de l'apartheid, mais beaucoup du pouvoir économique est toujours dans la main des Blancs et l'Afrique du Sud reste un pays très inégal. Donc les jeunes considèrent qu'on a le droit de vote, mais la pauvreté, le chômage des jeunes est à plus que 50%. Pour cette élection, il y a énormément de jeunes qui ne sont pas inscrits dans les listes électorales.
L'ANC toujours favori, parti historique, mais quand même, il y a d'autres partis qui commencent à lui faire de l'ombre, n'est-ce pas?
Le parti de l'opposition traditionnelle, l'Alliance démocratique, au mieux va faire 25%. Mais si jamais l'ANC a moins de 50%, il sera obligé d'être en alliance avec la soit l'Alliance démocratique et le Parti libéral ou le parti d'extrême gauche, le IFF, qui, eux, peuvent avoir autour de 10%.
C'était Lisa Lovaudran, chercheuse à l'Institute for Security Studies à Johannesburg.
Comment les femmes de la diaspora africaine peuvent-elles mieux tirer profit de la technologie? Tel était le thème d'une conférence organisée par le Bureau des Affaires africaines du maire de la ville de Washington. Les participants ont pu échanger et réfléchir sur la femme de la diaspora et son implication dans les domaines de la technologie. Reportage Arzuma Compaoré.
Le groupe d'experts en technologie réuni à l'ambassade d'Haïti a exploré de nombreuses façons de soutenir la femme africaine et de l'aider à mieux tirer parti de l'omniprésente technologie que l'on retrouve dans notre vie quotidienne. Joanna Leblanc est conseillère à l'ambassade d'Haïti.
La technologie fait tourner le monde. Nos courriels, nos médias sociaux, même les vêtements que nous portons sont fabriqués à partir de certaines données recueillies. La technologie a donc une incidence sur tout ce qui nous entoure. C'est pourquoi il est essentiel de faire en sorte que les personnes qui prennent des décisions en matière de technologie qui auront un impact sur l'ensemble de la population viennent de tous les horizons, de toute nationalité, de tout niveau socio-économique.
Dans la région de Washington, la demande d'une main-d'œuvre familiarisée en technologie est en hausse et les immigrés africaines veulent profiter de toutes les opportunités que cela représente. Mamadou Samba est le directeur du Bureau des Affaires africaines de la ville de Washington, D.C.
Il est important de veiller à ce que, pendant qu'elles vivent ici et possèdent les compétences et le savoir-faire nécessaires pour travailler dans le secteur des technologies, nous leur trouvions des moyens d'accéder à ces emplois. Il est important d'établir un lien entre les femmes dans le domaine des sciences et les possibilités qui existent et que nous ne connaissons peut-être pas encore. De nombreuses entreprises cherchent à diversifier leurs effectifs. Par conséquent, si elles cherchent à recruter davantage de francophones, de femmes parlant amharique, en pouvant parler arabe, il est important de s'assurer qu'elle soit connectée à ses ressources.
Et en ce qui concerne la cybersécurité, Priscilla Moutemboi du groupe US Africa Cyber Security affirme qu'il s'agit d'abord d'un effort d'équipe.
La cybersécurité est un domaine dans lequel le gouvernement et le secteur privé doivent travailler ensemble pour s'assurer que les personnes pour lesquelles les deux côtés travaillent soient bien protégées et utilisent efficacement la technologie.
Pour Angel Rich, qui a été nommé le prochain Steve Jobs par le magazine Forbes, il est tout aussi essentiel d'apprendre à se protéger de la technologie.
Être exposé à des tonnes de radiation, cela peut avoir un impact sur votre corps, votre façon de penser, etc. Nous devons être prudents et commencer à mettre en place différents filtres et paramètres afin de ne pas avoir un enfant de 3 ans qui est sur une tablette pendant 24 heures. Tout comme l'ajout de fluor dans notre eau pour aider nos dents, ce que beaucoup ignorent. Nous devons commencer à intégrer de tels éléments dans la technologie pour pouvoir protéger l'avenir.
En 2014, le Bureau américain du recensement a indiqué que la population d'immigrés africains dans le pays avait augmenté régulièrement, passant d'environ 80 000 personnes en 1970 à 1,6 million dans l'ensemble du pays. Aujourd'hui, elle représente au moins 17% de la population du district de Columbia née à l'étranger. À travers des rencontres de ce genre, les autorités locales souhaitent donner à la communauté africaine des connaissances et des ressources utiles.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Et ainsi va le monde d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La mise en monde a été assurée par Sims Loumami, Zuber Altaïb à la technique.
C'était Jacques Aristide et Raïssa Girondet à la présentation. Reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Excellente suite de programme.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
D'abord,